On est réunis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je voulais qu'on aborde la question de la sexualité féminine à partir de 40 ans. C'est un parti pris voulu parce que bah, j'ai 40 ans et plus, j'ai 42 ans. Et quand je discute avec les femmes autour de moi, beaucoup semblent dire que, y a des choses qui changent en fait. Donc, est-ce que les choses changent vraiment? Est-ce que c'est de notre fait? Est-ce que c'est les hormones qui diminuent? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu avoir le point de vue de deux expertes dans leur domaine, qu'elles nous disent ce qu'il en est exactement. Bref, merci de votre disponibilité et j'espère qu'on aura de très beaux échanges. Bonjour mesdames, aujourd'hui je suis accompagnée de deux jeunes dames peptiques, dynamiques, pleines d'énergie. Il y a Simone qui est masseuse tantrique. Elle va nous dire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de plus en plus à la vogue, on entend tout et n'importe quoi, mais je pense que ce sera mieux si c'est elle-même qui en parle, qu'elle nous dise c'est quoi le truc là. Et nous sommes également avec Linda, qui, elle, est sexologue. J'ai vu quelque part également que tu es sage-femme dont tu donnes la vie. Donc, je vais déjà donner la parole à Simone, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et c'est quoi le massage tantrique.
Bonjour, je m'appelle Simone, j'ai 43 ans, donc je suis dans la tranche concernée du coup. Je suis masseuse tantrique. Alors, c'est quoi le tantra? Le tantra, c'est une voie spirituelle qui vient d'Inde et qui est une branche du taoïsme. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc le massage tantrique. Le tantra, en fait, c'est une philosophie de vie, en fait. C'est une philosophie de vie qui apprend à être en conscience dans tout ce qu'on fait, qui apprend à se regarder en conscience, à s'accepter. Et il y a différentes techniques par rapport à ça. On va utiliser de la respiration, de la méditation et pas mal de choses. La branche du massage, ça vient du néo-tantrisme. Et en fait, le massage tantrique va permettre en fait de ressentir son corps dans son entièreté. C'est-à-dire que la personne qui est massée, la personne est nue, tout simplement. On la masse dans son entièreté. Et on va faire circuler l'énergie. En fait, on se sert de l'énergie sexuelle pour faire passer plein d'énergie dans le corps. Et c'est un massage avec un toucher très, très, très lent, mais vraiment très, très lent, ce qui va permettre à la personne qui est massée de ressentir millimètre par millimètre les mains qui passent sur son corps. En général, les sexothérapeutes, les sexologues en voient de plus en plus maintenant. Moi, par exemple, là, je vais me former en sexothérapie. Mon prof aussi est masseur tantrique. En général, on en voit les personnes qui vont souffrir de vaginisme, des personnes qui vont souffrir, des personnes qui ont été abusées, des femmes qui sont en voie de guérison, des hommes et des femmes, des hommes qui souffrent d'impuissance, d'éjaculation précoce, des personnes obèses. Qui ont du mal à ressentir leur corps parce qu'en général, ils se coupent du bas de leur corps. Donc, on leur réapprend à s'unifier plutôt que de se couper. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Le massage tantrique, c'est également bah, super pour les couples. Un homme apprend à masser sa femme, une femme apprend à masser son homme. Et on découvre que quand il faut masser le corps d'une femme, on a l'habitude d'aller sur les zones dites érogènes, à savoir nous ce qu'on appelle le vagin, on va appeler ça la yoni, et la verge, on va appeler ça le vajra. Comme ça, ils ne savent pas masser le corps de leur femme, parce qu'en fait, quand ils massent, il y a quelque chose derrière, ils attendent quelque chose derrière. Donc, on leur apprend à enlever toute attente derrière. C'est vraiment être dédié au plaisir de la personne, de la femme, et inversement, quand c'est la femme qui masse l'homme. Bon, là, on se rend compte aussi que quand c'est la femme qui masse l'homme, elle est beaucoup plus dans. Elle attend rien derrière. Elle veut juste faire plaisir à son homme et le masser. C'est une sorte. Moi, quand je fais du massage tantrique, enfin du massage tout court, mais du massage tantrique, puisque là, là, on parle de ça, je me mets en fait j'apprends à la personne à entrer dans une bulle, ce qu'on appelle une bulle sacrée, qu'on crée. En général, comment ça se passe? C'est que on fait 1 heure d'entretien, parce qu'en général, les gens ont des choses à déposer, plus qu'on ne le pense. Ensuite, il y a 1 heure et demie de massage, et ensuite, il y a 1 demi-heure pour que la personne, elle revienne à elle, et elle a peut-être aussi encore des choses à déposer. Donc, grosso modo, voilà comment ça se passe, une séance de massage. Et on laisse la personne vraiment accueillir tout ce qu'elle doit accueillir. Si la personne doit pleurer, elle va pleurer. Si elle a ressenti des choses, ben voilà, c'est lui laisser s'exprimer et créer une bulle vraiment safe, sans jugement. Voilà, j'insiste bien, sans jugement, pour que la personne puisse se laisser aller. Ce qui est pas, on n'est pas dans une société justement de bienveillance qui t'accueille tel que tu es, et le massage tantrique te fait t'accueillir tel que tu es, t'accepter tel que tu es et t'aimer tel que tu es. Voilà, c'est ça le massage tantrique.
Donc, si je comprends bien, en fait, c'est en quelque sorte faire la paix avec son moi profond. C'est ça, tout aligner de sorte qu'on soit équilibré.
Ouais, voilà, exactement. En utilisant l'énergie sexuelle qui est pour les hommes, qui est l'énergie, et c'est là où on se rend compte justement en tant que masseuse tantrique que l'énergie sexuelle masculine et l'énergie sexuelle féminine est différente. Donc, on masse pas d'une façon différente, mais par exemple, le massage d'un homme, on va masser son entièreté, donc on va masser le vajra parce que ça fait partie d'eux et parce que c'est quelque chose qui est apparent. Tandis que le massage de la femme, on va pas masser la yoni au premier massage. Et de toute façon, on se rend compte que quand on masse le corps d'une femme, on va pas aller directement au sein, on va passer déjà par le ventre. L'énergie de la femme sexuelle passe par le ventre, en fait. Et on va beaucoup insister sur le ventre avant d'aller dans tout ce qui est poitrine, jambes et peut-être à la fin yoni. Mais comme je disais tout à l'heure, un premier massage, c'est le masseur tantrique ou la masseuse tantrique qui va décider si au bout de la première, deuxième, troisième, voire cinquième, si la personne est prête, la femme est prête à recevoir un massage de la yoni. Parce qu'en général, il y a plein de mémoires traumatiques, il y a plein de choses et tout. Donc, on y va vraiment tout doucement et on voit si la personne est prête ou pas. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle un massage de guérison. Parce que là aussi, quand on va masser une yoni, on va masser tout le corps pendant 1 heure, et le massage de la yoni à lui tout seul pour que le corps d'une femme s'ouvre de lui-même. Et qu'on puisse accéder à sa yoni, on va passer 45 minutes à peu près. Donc, c'est plus que ce que les gens pensent quand par exemple, ils ont des relations sexuelles. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut apprendre à déconstruire les relations sexuelles entre hommes et femmes, parce que les hommes, effectivement, quand ils vont se mettre à bander, ben, ils vont vouloir pénétrer. Ensuite, il y a l'histoire d'éjaculation. Donc, ils sont dans une urgence. Et les femmes, ben, à contrario, c'est vraiment, ça prend le temps. Le temps que la yoni s'ouvre ou quoi que ce soit, que les jambes s'écartent ou quoi que ce soit, ça met énormément, énormément de temps.
D'accord, merci pour toutes ces explications. Alors, Linda, tu es sexologue. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est? Ça veut dire quoi? Tu fais quoi avec le corps des gens, avec les gens?
Bonjour à tous, je suis Linda Takou, je suis sexologue et sage-femme, et au quotidien, avec mon travail de sexologue, j'accompagne de nombreux hommes et femmes qui rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle, que ce soit pour retrouver ou trouver du plaisir et du désir dans leur relation, ou alors que ce soit dans la qualité de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes et avec leur partenaire. Et donc, je les accompagne à travers des consultations, à travers beaucoup de formations, à travers un accompagnement pour retrouver, pour certains qui l'ont perdu, ou alors pour trouver, pour certains qui n'ont jamais eu, une sexualité épanouie. Quand on parle de sexualité ici, on parle de tout le processus qui est mis en place depuis que tu es né jusqu'à ce que tu débutes une activité sexuelle, parce que je fais bien la différence entre sexe et sexualité. La sexualité, c'est tout le processus, et le sexe, c'est l'activité sexuelle, un peu comme à partir d'un moment de ta vie, tu démarres une entreprise, mais tu t'es préparé depuis un moment, peut-être en ayant les compétences et ainsi de suite. Donc, très souvent, les gens font le mélange entre sexe et sexualité. Donc, en fait, tout le monde a une sexualité. Les prêtres ont une sexualité, les enfants ont une sexualité, les vieux ont une sexualité, mais tout le monde n'a pas absolument une activité sexuelle. Et le fait de ne pas avoir une activité sexuelle, de pratiquer l'abstinence, c'est aussi une manière de vivre sa sexualité. Et quand on parle de sexualité ici, on parle justement du processus qui nous construit au travers voilà, de nos organes génitaux, de notre appareil reproducteur, de notre psychologie aussi, de nos émotions, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation à notre corps, de notre relation à l'autre. C'est vraiment tout un processus. Et s'il y a des éléments qui n'ont pas marché dans ce processus ou qui ont été bloqués dans ce processus, ça va empêcher, retarder, freiner ou alors bloquer l'activité sexuelle qu'on va vouloir mettre en place. Donc voilà donc mon travail au quotidien. Donc il m'arrive de faire, comme certains le disent, beaucoup de psychologie pour comprendre les gens, parce que tous les patients, par exemple, que j'ai et qui ont une difficulté dans leur intimité sexuelle, quand on fouille bien, ce sont des choses qui n'ont pas marché. Quand ils étaient plus jeunes, c'est la construction de leur identité sexuelle, c'est des choses dans le processus qui n'a pas marché, qui a été bloqué. C'est beaucoup de manque, puisque voilà, puisque les traumas, c'est plus les traumatismes que les gens ont, viennent parfois des manques qu'ils n'ont pas eu, des vides, ou alors viennent des choses qui leur ont été arrachées, qui n'ont pas été faites correctement. Et donc, en travaillant à comprendre cela, à mettre cela en conscience, en les accompagnant à guérir cela, mais automatiquement, cela a un impact plus tard dans leur activité sexuelle, dans la manière dont ils se regardent, dans la manière dont ils entrent en relation avec l'autre, et voilà, et dans la manière dont ils vivent au quotidien. Je dis toujours, une femme qui est bien baisée le matin, elle va être souriante, hein. Son teint sera clair, lumineux, elle va être pétillante, tandis que si ça s'est mal passé la nuit, le matin, elle est comme ça. Voilà, elle a le visage bien serré, bien froissé, prête à engueuler tout le monde. Bref, je caricature un peu, mais pour dire en fait que notre sexualité, ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est, ça touche à notre sensibilité, à notre vulnérabilité, ça touche à nos croyances, ça touche à notre culture, ça touche à nos émotions. Bref, ça touche en fait qui on est dans les différents moments de notre vie. Donc voilà ce que je fais moi en tant que, voilà, moi en tant que sexologue. Et puis j'ai commencé par des études médicales de sage-femme, donc pour accueillir la vie. Et bon, pour faire la vie, eh bien l'univers a voulu qu'on se fasse plaisir. Donc on a une activité sexuelle pour faire la vie. Donc j'ai trouvé tout à fait pertinent de comprendre le processus un peu plus en amont, de manière à pouvoir mieux accueillir la vie. Puisque quand on accueille une nouvelle vie, ben c'est un nouveau cycle. Voilà, qui commence pour la personne qui vient de naître. Le bébé, il va, voilà, depuis qu'il est bébé, dans les bras de sa mère, quand il tète le sein de sa mère, quand il reçoit de l'amour, de l'affection, c'est comme ça qu'il est déjà en train de construire, lui, son identité. En fait, le processus de sa sexualité a commencé. Et plus tard, dans ses relations avec les hommes et les femmes, voilà, les hommes vont aimer les seins, par exemple. On se demande bien où est-ce qu'ils ont appris à téter autant et à aimer. Bon, c'est avec les seins de maman. Ou alors, quand on va rechercher de l'affection, quand on va rechercher de l'amour, quand on va aimer prendre dans nos bras, mais ça rappelle des choses, des processus qu'on a déjà vécu enfant et qui reviennent à l'âge adulte. Donc voilà à peu près mon travail en tant que sexologue. Et bien sûr, il y a toute la partie voilà, documenter, travailler dessus, produire, comment dire, produire, je vais dire quoi, que ce soit de contenu, des articles, bref, pour
De la connaissance.
voilà, pouvoir la produire de la connaissance, en fait, pour pouvoir le diffuser au maximum de personnes, pour que ben, les gens comprennent que c'est normal. Que j'ai toujours aux gens, ben, tu es là parce qu'il y a deux personnes qui se sont fait plaisir. Donc, ce n'est pas extra.
Mais
Hein?
en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, tu as un carrefour. On aime souvent dire que l'être humain est le seul à avoir du sexe récréatif. Et il y a le sexe reproductif. Donc, effectivement, tu es vraiment entre les deux. Tu sers, tu permets aux gens de mieux se comprendre, de mieux s'accepter. Mais de l'autre côté aussi, tu gères les conséquences de cette
Pas
acceptation.
vu, non,
Tu vois,
exactement. Tu as tout. Donc, j'ai tout intérêt à ce que les gens fassent bien l'amour pour pouvoir avoir du travail de sage
c'est ça.
femme.
C'est ça, mais de l'autre côté, j'ai également beaucoup apprécié le distinguo que tu fais entre l'activité sexuelle et la sexualité. Tu vois, ce n'est pas assez clair comme ça dans la tête des gens parce que effectivement, en général, quand on te dit que oui, la sexualité, on voit tout de suite l'acte en fait, tu vois. Et dans ce que
Une
tu
partie.
expliques, c'est vraiment une partie, c'est tout un processus, c'est toute une accumulation de connaissances, de pratiques, de rapport à soi et à la sexualité. Et je trouve franchement que C'est super. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais j'ai eu le sentiment que vous n'êtes pas si différente en fait. D'une certaine manière, vous gérez différemment, mais l'objectif est le même. Est-ce que vous avez eu la même impression que moi, Simone?
Moi, par exemple, les mots qu'elle a utilisés, mettre une conscience, tu vois, je l'ai utilisé. Donc, dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, ouais, on parle le même langage. Et quand Linda a parlé de, il y a le sexe et l'activité sexuelle, bah, forcément, c'est des trucs, voilà, que je prône. Et effectivement, on se rend pas compte, mais les enfants, ils ont une sexualité, les personnes âgées ont une sexualité, tout le monde a une sexualité. Maintenant, passer à l'acte et voilà, et j'ai bien aimé quand Linda elle a dit voilà, l'abstinence c'est faire de mettre sa sexualité voilà et dire voilà, je m'abstiens mais c'est pas pour autant que on se coupe de son sexe ou de son envie sexuelle. Moi, je la rejoins mais à 1000% et effectivement, j'aime bien comme dit Armelle, Linda, le fait que tu sois au carrefour de la sexualité récréative et la sexualité reproductive et ton travail, Linda, tout comme le mien, c'est de faire comprendre aux gens que dans la sexualité récréative, et bah, ça dépend de plein de choses, comme tu l'as dit, bah, les traumas, les blessures de l'âme, ça vient de l'enfance et tout ça. Donc, apprendre à se déprogrammer et à se guérir pour aller vers une sexualité épanouie. Et finalement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Linda, c'est repartir, quand on parle de sexualité récréative, c'est repartir dans cette innocence. Tu sais, finalement, quand tu es enfant, là, tu sais, quand tu te découvres, tu sais, innocemment, bah, une sexualité épanouie, c'est ça, c'est revenir à l'innocence, enlever les performances, enlever des attentes derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment, comme tu dis, s'amuser avec son propre corps, s'amuser avec le corps de l'autre, découvrir le corps de l'autre. Et ça, c'est sain, en fait, c'est vraiment sain.
Linda?
Oui, je partage également ce que voilà ce que Simone a dit dans le sens que dans l'acte sexuel en fait je dis tout l'acte sexuel a plusieurs finalités voilà ça peut être reproductif donc donner la vie d'ailleurs quand on est dans une énergie de comment on dit de reproduction on le sent très bien je prends par exemple les couples qui sont dans un parcours de PMA de procréation médicalement assistée ou alors qui sont en train de chercher un enfant ils ne vivent pas du tout l'acte sexuel comme un couple voilà qui le fait pour voilà pour s'amuser donc on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques là on a parlé voilà de la finalité reproduction de la finalité érotisme qu'on voilà qu'on appelle amusement mais l'acte sexuel peut aussi avoir d'autres finalités ça peut aussi être pour soigner vraiment un acte sexuel peut vraiment soigner voilà soigner des gens donc vraiment comment dire, l'acte sexuel ou alors le sexe, si je peux dire comme ça, parce que voilà, c'est le mot qu'on utilise le plus, comment dire, a vraiment revêt en fait plusieurs aspects qu'il est important de prendre conscience. Et en fonction des différents âges de vie, ben, on n'est pas du tout dans les mêmes attentes. Sauf que cet acte, en fait, c'est le même acte, mais il y a plein de choses qui sont intimement liées. Et le fait de comprendre que c'est intimement lié et que parfois on peut dissocier les choses, le tout, c'est de mettre la conscience hein, et de se préparer à les dissocier. Je prends un exemple très simple. Si on veut avoir des rapports sexuels parce qu'on en ou parce que c'est un moment de plaisir, c'est un moment pour se retrouver, qu'on ne souhaite pas avoir des enfants, il va falloir penser à une méthode contraceptive. Pourtant, c'est le même acte. Vous voyez? Voilà. Si on veut avoir des rapports sexuels parce qu'on a besoin, parce qu'on veut pouvoir donner la vie, ben on va pas mettre de méthode contraceptive. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus simple, le plus basique, des choses qu'on fait couramment, mais qu'on ne prend pas peut-être conscience. Donc c'est vraiment important, en fait, de resituer à chaque fois chaque chose à sa place et que, ben, chaque chose, c'est une question de temps et c'est une question de saison. Quand un adolescent, lui, il a des rapports sexuels, ben, il est en mode découverte, mais il est plus en mode il veut faire pour faire comme les autres. C'est
C'est
pas
ça.
que là, il sent son désir tellement brûlant. C'est juste que ben là, bon, son corps, c'est pas ce qui se passe. On a dit qu'on fait comme ça et on fait. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ces différentes dimensions-là. Ça permet déjà une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure compréhension de la dynamique qu'il y a dans la relation aussi. Parce que parfois, deux personnes ont un accès, mais ils ne mettent pas du tout les mêmes choses dedans. Et après, ça crée tous les problèmes. Et voilà qu'on a, oh, il m'a mis enceinte, il venait juste en fait tirer son cou. Donc, Vraiment, c'est très important de mettre de la conscience sur tout ça.
D'accord, c'est parfait et c'est vraiment très édifiant. Maintenant, avant qu'on ne se lance dans le vif du sujet, j'aimerais déjà qu'on casse un stéréotype, disons ça comme ça, et vous me direz, est-ce que c'est justifié ou pas? Il y a des gens qui ont souvent tendance à dire, je ne suis pas vraiment porté sur le sexe, ça ne me dit rien, oh, franchement, je fais seulement pour faire. Est-ce que c'est vraiment que c'est comme je peux ne pas aimer le miel, par exemple, ou est-ce que c'est parce que j'ai été, par exemple, piqué par une abeille et puis je dis tout ce qui concerne l'abeille, ça ne me concerne pas. Donc, quel est votre avis à ce sujet?
Moi, mon avis, c'est que y a plusieurs dynamiques là-dedans. Il y a des personnes qui sont asexuelles, donc qui n'ont pas d'envie. Et ça, il faut quand même prendre conscience qu'il y a des gens comme ça qui existent. Et puis, t'as l'exemple que tu as donné tout à l'heure, Armelle, est sympa. Tu sais, tu as été piqué par une abeille et l'abeille n'était pas top, tu vois. ça peut être aussi, tu sais, tu as eu une relation sexuelle avec quelqu'un avant et ça s'est mal passé. Et Linda, tout à l'heure, parlait de l'éducation sexuelle aussi. Tu sais, on n'éduque pas la sexualité, malheureusement. Et Linda a dit un truc hyper important tout à l'heure, se connaître. Il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas à quoi ça ressemble là, en fait. Donc, si tu ne sais pas à quoi tu ressembles en dessous, comment tu peux avoir du plaisir? Le plaisir, avant de le remettre à quelqu'un d'autre, le plaisir, tu dois d'abord te le découvrir toute seule. C'est moi d'abord. Je me suis d'abord découverte. J'ai découvert où titiller, où caresser, où appuyer, où machin, quoi que ce soit. Et je me suis découverte. Et après, effectivement, avec un homme, les partenaires sont différents et tout. Donc, il faut à chaque fois redécouvrir. Et c'est comme ça que tu peux guider l'homme aussi. Parce que le sexe, c'est un duo, hein. C'est une communication. C'est pas tu te couches
Tu fais
étoile de mer
l'étoile
et tu attends que ça se passe. Si
de
c'est ça. Étoile de mer, t'es là, voilà, tu vois. Ou dans l'autre sens aussi, t'es pas là non plus pour être en mode le mec, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape. C'est pas, voilà. C'est vraiment un échange. C'est voilà, touche-moi là où ça va me faire du bien. Et justement, les hommes, ils aiment. Ils aiment. Ils osent pas parce on leur a pas appris à être dans cette dynamique. Mais quand une femme petit à petit les emmène à tiens, chérie, là, ici, fais comme ça et ils voient le plaisir que tu éprouves, tu vois, ils sont contents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu sais pas avoir du plaisir, si tu te connais pas, si tu connais pas ta cartographie, bah non, tu vas pas aimer le sexe, ce qui est totalement, enfin, c'est normal, puisque du coup, ça sera pas un échange de deux énergies, ça sera juste ton mari
Prendre.
ouais, veut juste te prendre. Et là, il y a pas un cercle qui s'installe, c'est juste tu prends, tu prends, tu prends, et toi, tu te laisses faire, et puis tu fais ta liste de courses en attendant. Et encore, comme on voit beaucoup de femmes, et tu me le diras, Linda, tu confirmeras qu'ils simulent. Tu vois, donc forcément, si tu simules, c'est que tu parles, et que voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait de la mauvaise éducation, même pour nos hommes, et après, on les blâme. Mais si tu simules, comment tu veux que l'homme y comprenne? Et effectivement, on simule parce qu'on ne veut pas le froisser, mais on lui fait plus de mal qu'autre chose. Et pour finir, si tu simules pendant toute ta durée avec cet homme-là, le jour où il va tomber avec une nana qui va dire, hé, gars, ce que tu fais là, franchement, on va faire autrement. En général, ce qu'on te sort, les hommes te sortent, c'est, ouais, mais moi, toutes les nanas que j'ai eues, elles m'ont jamais rien dit, ça s'est plutôt bien passé. Donc, faut aussi rendre service à tes sœurs qui arrivent derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que
Oui, Linda.
là. Bon, alors, pour des femmes qui n'ont pas de désir sexuel, on appelle en jargon médical des troubles du désir. Ça peut être une aversion totale pour la sexualité. Ça peut être un trouble de désir passager. Tout ça, en fait, au quartier, on dit frigide. Oh, les femmes frigides, en fait, c'est totalement faux. Voilà. Moi, je dis, il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des femmes mal baisées. Voilà. Quand elles sont mal baisées, elles deviennent frigides ou ainsi de suite. Alors, en tout cas, quand moi, j'ai en patient quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour la sexualité, la première chose à faire en tant que praticien, c'est d'éliminer d'abord une cause organique. Parce qu'il y a des facteurs biologiques qui peuvent couper le désir. Et là, si c'est un facteur biologique, ben, quel que soit ce que tu vas lui donner comme conseil et tout, ça ne va pas régler. Il faut d'abord aller chercher. Donc, ça peut être que ben, son système hormonal ne marche pas. Peut-être qu'elle a un déficit de production en œstrogène, en progestérone, et ainsi de suite. Donc, il faut d'abord aller investiguer au niveau organique pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème organique. Donc là, on élimine la biologie et c'est à ce moment qu'on peut aller explorer d'autres pistes, notamment aller regarder voilà, au niveau de son cœur. Quand je dis au niveau de son cœur, c'est tout ce qui concerne voilà, nos émotions, notre acceptation. Donc voilà, tout ce qui se passe en fait dans notre tête. Et regarder également tout ce qui se passe dans les croyances, parce qu'il y a énormément de croyances qui nous bloquent. Je dis toujours les croyances, c'est comme des logiciels qu'on a installés, qui marchaient sûrement bien à une époque, mais sauf que ben, la technologie évolue rapidement et donc ben, beaucoup de logiciels deviennent obsolètes et il faut les réactualiser. Sauf que ben, très souvent, on n'actualise pas ces logiciels-là, on les laisse en place et dans d'autres concepts, ben, ça ne nous sert plus à rien. Mais parce qu'on est tellement habitué à ces logiciels-là, personne ne nous a dit de changer. Ou alors, c'est trop difficile aussi de changer, parce qu'il faut le dire, on est des êtres d'habitude et des habitudes ont la peau dure, que ce soit les bonnes comme que ce soit les mauvaises. Parfois, on préfère rester avec des choses qui ne nous vont pas, qui ne nous conviennent pas, juste parce qu'on a voilà, on a trop peur de changer, on ne sait pas ce qui va se passer après, ou alors ça va nous demander beaucoup trop d'énergie. Et comme dans notre siècle, on est devenu un peu trop paresseux, ben on reste avec des choses qui ne conviennent pas et on devient malheureux après. Donc, pour moi, c'est ça en fait la démarche. C'est d'abord d'éliminer quelque chose d'organique et ensuite d'aller creuser et de voir. Et moi, voilà, dans ma démarche pour soigner les personnes et pour accompagner, c'est vraiment les amener en fait à prendre conscience en les questionnant. Donc, voilà, d'emblée, je vais plutôt, quand je comprends à peu près où se situe le problème, j'essaie d'amener la personne par des questionnements bien ciblés à prendre conscience petit à petit et de manière à ce que eux-mêmes, genre, ils découvrent le soleil. Et là, c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre conscience et de changer voilà, que d'avoir déjà la réponse toute faite et de leur dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et aussi, une autre chose que je souhaite ajouter, voilà, pour aller à la suite de Simone, c'est que ben, le désir, c'est quelque chose en fait qui s'entretient. Moi, je dis toujours, c'est un feu. Voilà. Et un feu, il faut l'entretenir pour que ça ne s'éteigne pas. Et si vous ne faites rien, ça va s'éteindre parce que life happens, hein. Même le feu, quel que soit le feu, que ce soit au feu de bois ou à la cuisinière, il faut des éléments qui font que le feu reste. Si c'est au feu de bois, il faut le bois, voilà, il faut la chaleur, il faut ceci. Quand on ne met rien en place, ben même s'il y a un feu qui existe, ça va s'éteindre. Il faudra mettre de l'énergie. Donc, ça veut dire que ça s'entretient. Ça veut dire qu'il faut être conscient que le désir s'entretient et que si je ne fais rien, ça va mourir. Comme dans mon couple, si je ne fais rien pour entretenir la qualité du désir de la relation avec mon partenaire, ça va se gâter. Surtout que les situations de la vie ont prévu que ça se gâte. L'arrivée d'un nouvel enfant, les disputes, les problèmes au travail, la belle-mère qui est montée, l'achat de ceci qui a fait ça. Bref, il y a tellement de situations stressantes qui vont avoir de l'impact sur nous, de l'impact sur notre biologie, de l'impact sur nos émotions, l'impact sur nos croyances, qui vont faire que ben, ça risque de ne pas marcher avec le temps. Donc le challenge, c'est de réussir à entretenir ce désir-là, cette flamme-là, sur le temps, pour que ça ne meure pas. Et pour ça, il faut être conscient que si je ne fais rien, ça va mourir. Donc une femme également, si elle ne fait rien pour entretenir son désir, si elle ne fait rien pour entretenir la relation avec elle-même et la relation avec son partenaire, voilà, ça va se gâter. Et comme Simone a dit, ben, si chaque jour, ben, tu simules ton partenaire, ça a de l'impact en fait. Ton partenaire, lui, l'enregistre que c'est ça, alors que c'est pas ça. Donc, tu ne rends service ni à toi-même, ni à l'homme, ni à la gente, ni aux autres femmes qui vont venir derrière. J'adore quand même le point de solidarité féminine. Hein. Je pense que les femmes devraient être plus solidaires comme ça
On est
les unes
d'accord.
aux autres. Voilà.
Ouais,
Quand on regarde, c'est aussi pour la
parce
postérité.
que quand tu arrives et que toi tu dis tes choses, tu sais, parce que voilà, c'est moi ça m'est souvent arrivé et tu sais, l'homme se vexe, tu sais, genre, t'es la première à te plaindre. Gars, je suis la première à te dire la vérité et à te rendre compte. C'est-à-dire qu'après moi, là, la go, elle va être bien. Donc, remercie-moi. Et du coup, quand je pense à ça, je me dis, non, les sœurs, franchement, comme tu dis, un peu
Soutenons-nous, soutenons-nous, même au lit, soutenons-nous.
un peu
OK.
de
Donc, ça, c'était pour est-ce que c'est vraiment vrai que ça ne me dit rien ou AK? On a
C'est vrai.
exhausté la question, mais je reviendrai sur certains points que je crois très importants. Maintenant, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. J'ai avec moi trois témoignages d'une dame de 50 ans, d'une dame de 70 et d'une autre dame de 60. La première de 50 ans, en fait, j'étais allée lui rendre visite et on est entré dans un magasin. Elle a acheté des pilules roses. Moi, j'étais en mode, okay, c'est encore quoi ça? Elle me dit non, avec le temps, franchement, c'est plus ça quoi. Elle ne démarre plus au quart de tour comme avant. Il faut énormément d'énergie. Son mari doit déployer énormément d'énergie pour la démarrer. Et que, franchement, ça la relaxe assez pour qu'elle soit dans les dispositions de se donner à son mari. La deuxième, le 70, me fait, elle, ça ne lui a jamais rien dit. Et plus le temps passe, plus vraiment, elle est en mode, finissons-en rapidement, je passe à autre chose dans ma vie. Parce qu'en plus, son mari, lui, il est un chouchou lapin et elle, c'est vraiment du genre, d'accord, parce qu'on est mariés, la belle affaire, fait. Et c'est vraiment du genre, aucun effort. Mais quand je dis aucun effort, c'est vraiment aucun effort. Et la dame il y a une autre de 60, son mari est gravement malade. Pour ne pas dire pratiquement, j'ai pas envie de dire impuissant, c'est juste que la maladie l'a tellement diminué que c'est compliqué. Donc, et elle me disait que, vous savez comment nos mamans sont, que vraiment, qu'elle prend sur elle. Et en gros, elle a décidé de mettre sa vie sexuelle de côté parce que son mari ne peut pas. Donc, ma question, la première, c'est que, est-ce qu'à un certain âge, le plaisir sexuel diminue. Prenons par exemple le cas de la dame de 50 qui dit qu'elle a besoin de relaxants pour être disposée. Est-ce qu'il y a des processus en cours qui font en sorte qu'à un certain âge, on lubrifie moins, on a moins de plaisir, on a moins envie? Point d'interrogation. Ah, Linda?
Je vais répondre vraiment très simplement. Hein. Armelle, est-ce que la jeune femme de près de plus de 40 ans que tu es aujourd'hui, est-ce que c'est la même que la petite fille qui a 5 ans, qui avait 5 ans?
Non, définitivement, non, non.
Voilà. Est-ce que l'énergie que tu déployais quand tu avais 5 ans, c'est la même énergie que tu déploies aujourd'hui quand tu as plus de 40 ans?
Non.
Alors, pourquoi est-ce que donc les gens veulent. Voilà. Pourquoi est-ce que les femmes, et pas seulement les femmes ou les hommes, veulent revivre leur âge de 5 ans, de 15 ans, alors qu'ils ont 60 ans, 70 ans, 80 ans. Pourquoi en fait les gens se font autant de mal? Il y a un temps pour toutes choses et il y a une saison pour toutes choses. On est dans la saison pour récolter, on récolte et on est content. On ne se courbe pas. Quand on est après la récolte, ben, où le champ de maïs est sec, le champ de maïs est sec. Et on attend la prochaine. Donc la vie est une question de cycle, est une question de saison. Et donc le simple fait de prendre conscience de ça, permettra à chacun de dire, j'ai passé cette saison et c'est une nouvelle saison qui arrive. Et à chaque saison, c'est joie, c'est peine, c'est plaisir, c'est challenge, ainsi de suite. Beaucoup de personnes se font énormément de mal parce qu'ils veulent revivre la même saison toute leur vie. Et ça ne marche pas. Il y a le jour, il y a la nuit. La nuit est faite pour dormir, bon, d'autres restent debout, mais tu ne peux pas rester éveillé 24 heures sur 24 pendant un mois. Non, tu vas te rendre malade, tout comme tu ne peux pas dormir également 24 heures sur 24 pendant un mois, sauf si tu es dans le coma. Donc, la première chose à faire, prendre conscience à tout le monde, et principalement là, on parle du cas des femmes, c'est que les saisons sont différentes et qu'elles sont à des saisons différentes de leur vie. Et donc, quand il y a une saison différente, quand on y a un changement dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend les dispositions par rapport à cette saison. Est-ce que quand tu es en pleine saison de pluie, tu vas te plaindre qu'il n'y a pas assez de soleil? Non, c'est la saison des pluies. Donc, tu prends tes bottes, tu prends ton parapluie et tu avances, tu vas faire ce que tu as fait en prenant les dispositions pour cela. Tu ne vas pas dire non, vraiment, je suis à la saison des pluies, voilà, il pleut, je ne peux pas aller travailler et tout. Non, on prend les dispositions et tu vas travailler. Tu vois, donc c'est déjà en fait ce paradigme-là déjà que les femmes doivent intégrer. Et même les hommes, hein, et n'importe qui, et c'est valable dans notre sexualité, dans la manière dont on vit notre activité sexuelle, c'est aussi valable dans plein d'aspects de notre vie. Même quand on est entrepreneur et quand on a une entreprise sur l'année, ben, il y a des mois où on est hyper performant, où on a de très bons résultats. Et il y a des mois où, bon, on sait que là, c'est le flop. Après, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans ces mois-là, ça marche moins bien. Mais c'est le cycle naturel de la vie. Par exemple, une femme qui a près de 50 ans, 55 ans, qui est ménopausée. Donc déjà, dans son corps va produire moins d'œstrogène, moins de progestérone, qui est aussi une composante importante du désir. Donc naturellement, son désir va diminuer. Donc ça ne sera plus la même que ben, quand elle avait 20 ans et qu'elle était au pic voilà, de ses hormones toutes fraîches. Donc il y a des choses qui vont changer. Donc c'est important de prendre conscience de ça et de se dire et de comprendre que je suis à cette saison de ma vie et donc je m'adapte, je mets en place les mesures qui correspondent à cette saison de ma vie et je ne vais pas prendre des mesures qui correspondent à une autre saison. On est en saison de pluie, on porte les bottes, on met le parapluie et on s'habille avec des vêtements qui sont faciles à laver. Voilà, en saison de pluie, c'est pas en saison de pluie, voilà, qu'on va mettre voilà, des vêtements blancs qui vont être tout tachés de boue, ou alors qu'on va marcher avec des sandales ouvertes. Non, ça risque de se gâter. On prend les pré-mesures qui correspondent à cette saison-là. Et c'est la même chose dans notre sexualité, et c'est la même chose également pour les femmes. Ou alors l'environnement dans lequel je vis, peut-être que j'ai plus de responsabilités, peut-être que tout ça va influencer. On est un tout en fait, on est un tout. Et notre sexualité, ça fait partie de nous. Ça, voilà, ça fait partie de nos habitudes, de nos croyances, de notre environnement, de ce qu'on ressent. Un exemple très simple, quand une femme est en colère parce que contre son mari, ça bloque totalement son désir. Pourtant, son corps peut aller bien, mais voilà, parce que son cœur n'y est pas, bien, le désir est bloqué. Donc pour moi, c'est la première chose déjà à prendre conscience. Et quand on prend conscience de ça, là déjà, on baisse la pression, c'est OK, zen, il n'y a pas le feu, d'accord? On n'est ni les premières ni les dernières à passer par là. Et maintenant, on cherche des solutions qui répondent à cette saison-là, pas une solution qui répond à une saison dans laquelle on n'est pas. Voilà ce que je peux déjà en dire.
D'accord, c'est bien noté. Simone?
Clairement d'accord avec tout ce que Linda a dit. C'est-à-dire qu'il y a une sexualité à 50 ans, il y a une sexualité à 60, il y a une sexualité à 70. La sexualité, comme elle a dit Linda, c'est un tout. En fait, nous, en plus, c'est vraiment avec le cœur qu'on a cette sexualité. Et le truc que tu as dit, Linda, qui m'a fait rigoler tout à l'heure, c'est la belle-mère. Donc, il y a des agents. J'aime bien que tu l'aies noté parce que de mettre la belle-mère en agent stressant, c'est quand même aussi une réalité.
Belle famille, tout ce que tu veux. Bon, c'est là.
Et à 50 ans, on n'a pas les mêmes responsabilités qu'on a à 20 ans. 20 ans, c'est un peu d'insouciance, on vit la fleur de l'âge. Comme a dit Linda, c'est l'histoire de saison. La dame de 50 ans, 50 ans, je trouve pas ça vieux, voilà. Et puis j'ai des exemples en plus, mais au-delà de la ménopause, comme elle a dit Linda, par rapport à ce que tu vis, pour en prendre conscience, et il faut dealer avec. C'est-à-dire que là, la problématique de la dame, c'est de dire qu'elle a besoin de prendre des pilules pour se détendre, pour pouvoir avoir une sexualité. Au lieu de prendre ces pilules-là, c'est qu'est-ce que... c'est le mot, c'est se détendre. Elle avait besoin de se détendre. Tu vois, donc là, ce n'est pas sa sexualité, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Parce que son mari, il a des besoins, voilà, plus importants que les siens. Et il faut aussi arrêter de culpabiliser les femmes qui ont moins de désir que leur homme. Tu sais, tu sais, la sexualité, pour moi, c'est tendresse, ça fait partie de la sexualité. Les caresses, juste des bisous, prendre dans les bras, c'est pas la pénétration. Hein, Linda, tu me
Bien sûr,
contrediras
oui,
pas.
totalement, hein.
Voilà.
Totalement. La pénétration, c'est une manière de vivre, mais on peut recevoir énormément et donner énormément de plaisir
C'est
juste avec nos
ça.
mains,
Ça, avec
juste avec notre corps, juste avec les caresses, juste avec même les bonnes paroles qui peuvent te faire mouiller
Merci.
et qui peuvent t'étendre.
On est d'accord. Linda, comme Armelle, pareil, comme dit Linda, juste la parole. Quelqu'un qui, quand te susurre quelque chose à l'oreille, ça peut te faire grimper au rideau alors qu'on ne t'a pas touché. Donc, c'est vraiment faire l'amour avec tous ses sens. Et donc, celle de 50 ans, ça va être de se détendre. Donc, il faut qu'elle travaille sur les agents perturbateurs qui vont faire que elle n'est pas détendue. Après, il y a cette histoire de ménopause. Pareil, quand tu es en ménopause, il faut comprendre que les femmes, il y a cette baisse d'œstrogène et tout ça. Il y a aussi une alimentation adaptée aussi. C'est tout un terreau, en fait. Tu prends ce terreau-là, tu le mets là, et voilà, et t'attends. Et l'image que Linda a dit, c'est chaque saison, c'est-à-dire déjà, tu es dans cette histoire de ménopause, mais déjà, essaye de maîtriser ce truc dans lequel tu es avant de vouloir faire plaisir à l'autre. L'autre, il va attendre, tu vois, parce que si tu es en de bonnes dispositions, tu le mettras bien. Si tu n'es pas en bonne disposition, tu feras pas ce que tu dois faire. Donc déjà, prends ça. Ce qui te stresse, travaille dessus. Si c'est de la ménopause qui est en train de faire, il y a plein de choses à changer dans la vie d'une femme qui est en ménopause. Il y a les bouffées de chaleur, il y a plein de trucs. Moi, on me dit souvent l'alimentation. Il y en a beaucoup que je connais qui sont dedans. Elles changent beaucoup leur alimentation et celles qui ne le font pas, elles se retrouvent avec plein de trucs. Tu sais, le sel, faut pas beaucoup manger de sel. Enfin, tu vois, manger moins de viande. Enfin, il y a plein de trucs à changer aussi dessus, tu vois. Celle, tu me disais, son mari, il est un peu moins, il est moins performant parce qu'il a la maladie. Bah, c'est pareil. Ayez une sexualité adaptée. La
À la
sexualité,
maladie,
ouais,
c'est ça.
la sexualité, c'est pas quand quelqu'un il a le barreau, c'est stop en fait. Arrêtons ça. La sexualité, c'est pas quand un homme il bande. La sexualité, c'est quand un homme il a du désir, quand une femme il a du désir. Maintenant, par rapport à ce désir, c'est savoir comment on va se le donner l'un l'autre. Si c'est les caresses, si c'est juste une pipe, si c'est juste les mains, si c'est juste, c'est voilà, peut-être que là ça marche pas, et ben dans ce cas-là faut lui faire apprendre, découvrir d'autres
Autre
zones érotiques,
chose, oui.
d'autres érotiques. C'est elle et le, je reviens, l'image qu'elle a donnée, c'est vous êtes dans une saison là, et ben non, vous y êtes plus, vous êtes dans une autre. Adaptez-vous, adaptez-vous. La sexualité, c'est pas même. Moi, je suis désolée, hein, j'ai 40 ans, ma sexualité de 20 ans, je ne la regrette pas du tout. J'ai jamais été autant épanouie que depuis que j'ai la quarantaine, parce que je me connais par cœur. Là, je me connais et dans tous les cas que tu as cités, c'est se connaître. À partir du moment où tu te connais, tu peux t'adapter. Et comme on l'a dit, Linda et moi, la sexualité, ce n'est pas la pénétration, ce n'est pas bander. La sexualité, c'est embrasser, c'est parler, c'est ressentir. Tu prends un petit fruit, tu mets sur le bord de la bouche, c'est sensualiser la chose, c'est entretenir la flamme, c'est ça. Embrasser ton homme en pleine couche, c'est déjà lui faire l'amour. Putain, il y a des
Oui.
capteurs sur tout le corps, on a des capteurs sur toute la peau, sur la langue, il y a des capteurs, on te lèche comme ça ici, tu frissonnes. Donc arrêtez de vous, il faut arrêter de s'arrêter à l'appareil génital.
Et ça, on est très pour compléter ce que tu dis, en plus c'est bon, c'est bon, comment on peut lécher vraiment du là. On a perdu Simone. Simone, reviens, 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 reviens là. Tu es très excitée là. Quand elle revient, reviens, hein, on est encore là.
Et justement, j'avais envie de dire que je ne sais pas si tout le monde le sent, mais j'ai l'impression que la température est en train de monter là. Hein?
Simone est partie.
Simone nous a battu les yeux en
Alors là, on a
mer.
chauffé Simone dans tout son corps. Là, Simone est... Mais c'est léché, c'est ça. Fait dire, hey, Simone, ça y est, on est parti, on l'a perdu. Simone, reviens, reviens.
Mais
Donc,
plus
c'est quoi,
sérieusement,
j'ai.
j'adore bien le fait que vous le mentionnez parce que, et Simone, ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas pour Linda, mais ça a sonné tellement vrai parce que quand on était au début, hein, au balbutiement de notre sexualité, là, tu acceptais tout et n'importe quoi parce que tu ne
Ah
savais pas,
oui.
tu ne connaissais
Tu
pas.
testes.
Tu testes, comme tu dis, tu cherches
Mais
ton
oui,
chemin.
c'est un mot de test.
On a essayé énormément de choses, on a subi énormément de choses, on a toléré énormément de choses. Et Dieu merci, la saison de la connaissance de soi arrive et on a beaucoup plus. Quand je vois la gamine que j'étais il y a quoi, disons à 20 ans. Quand je regarde comment elle a évolué dans sa trentaine et comment elle se situe par rapport à sa sexualité à 42, je suis au monde, ok, on est tombé plusieurs fois sur le chemin, mais ça en valait la peine parce que pour finir, aujourd'hui, même si tu ne fais pas le job, entre guillemets, je peux le faire pour moi-même, Amine, tu vois?
C'est ça.
Ça ramène une dimension parce que tout à l'heure, Linda, tu parlais de femmes mal baisées. On a ce truc-là au Cameroun où Dès que tu arrives, le visage froissé, on dit que.
C'est une femme qu'on n'a pas bien
C'est
le
ça,
soir.
tu vois. Mais après, je me demande aussi si, en plus, pour nous qui avons, let's say, un certain âge, est-ce que ce n'est pas aussi trop mettre sur le dos de quelqu'un? Tu vois? Pourquoi est-ce que tu serais en attente d'être bien baisé? C'est vrai que on donne pour recevoir. Et c'est ce cadre-là, je pense que c'est un des endroits où on donne vraiment pour recevoir. Je veux dire, dans un, disons, dans un couple équilibré, tu vois, je te donne du plaisir, tu me redonnes du plaisir. Mais est-ce que les femmes ne devraient pas également s'approprier leur corps? Et Simone le disait aussi, de savoir ce qui marche ou pas. Et là intervient, par exemple, la masturbation, qui, je suis désolée, pour l'homme encore, ça passe. On peut tolérer, mais quand une femme dit qu'elle se masturbe, on va la regarder comme la folle du coin, on va la regarder. En plus, s'il y a la religion, il y a énormément de religions dans cette affaire, qui font en sorte que les femmes sont coupées de leur propre corps. Il y a des femmes qui, et ça je dis souvent ça aux petites sœurs, pourquoi tu voudrais que quelqu'un te donne du plaisir si toi-même tu ne sais pas ce qui marche chez toi? Parce que l'air de rien, la sexualité, le sexe, c'est également un dialogue. Je dois pouvoir être dans un cadre de confiance pour te dire que tonton, vraiment, ce que tu as fait là, ça ne marche pas.
Ça
Tu
ne
vois,
donne pas.
peut-être les autres aiment ça, mais la qualité, si, ce n'est pas mon truc. Tu vois, il y en a qui aiment qu'on leur suce les orteils. Ok, d'accord, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Tu vois, et c'est vraiment dommage parce que on a été éduqué dans un certain moule. On pense que le sexe, c'est copier-coller à l'infini. Hein, on reproduit les schémas again and again and again and again. Et voilà, on crée des générations de femmes, j'ai envie de dire une fois de plus, mal baisées, parce que voilà,
Exactement, j'en venais.
non?
J'en venais justement à la création de manière totalement inconsciente de générations de femmes mal baisées. Et en
Belinda,
fait, pour moi,
Linda,
oui.
juste un truc. Bizarrement, les femmes camerounaises, nos mamans, en tout cas moi, ma maman ou mes tantes ou quoi, on nous dit quand même, dès petites, un homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Dès petites, on voit un peu le paradoxe, un peu, parce qu'on ne nous parle pas de sexualité, mais dès petites, on nous dit que pour retenir ton homme, pour garder son homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Tu vois ce que je veux dire?
Après ça, quand même aussi, je pense que aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il y a des choses qui sont plus nuancées. Parce que pour moi, si je veux aller dans ce cas-là, que tu nourrisses bien un homme, que tu es disponible pour son bas-ventre, si son cœur là n'est pas ouvert pour toi, il ne va pas rester.
C'est vrai.
Même ce que nos mères disaient, maman, pardon, ça c'est des choses bizarres, bizarres, bizarres d'avant là. Et encore, même, la preuve. Je pense que toutes nos mamans qui ont été dans des foyers, parfois polygamiques, qui ont été cocues, je ne pense pas que c'est parce qu'elles préparaient mal ou bien que c'est parce qu'elles ne faisaient pas bien l'amour. Non, je ne crois même pas. Je pense qu'on devrait ajouter un homme, c'est sa parole, c'est le ventre et le bas-ventre. Parce que beaucoup d'hommes se plaignent dans leur foyer ou alors quand ils vont chercher ailleurs, très souvent c'est parce qu'ils n'ont pas la paix à la maison. Faut pas qu'on se le mente. C'est parce que le foyer qu'on a créé, il y a trop le feu dedans, ça brûle trop. Et personne n'aime rester quelque part où il n'est pas bien. Ça, c'est ce que je voulais dire pour appuyer d'abord qu'il faut ajouter le ventre, il faut ajouter autre chose même qui est plus essentielle. Et aussi, pour moi, toutes les difficultés que les femmes rencontrent dans leur sexualité, parce qu'il faut quand même dire que c'est plus les femmes qui ont beaucoup plus de blocages, qui ont beaucoup plus de poids, comment dire, qui subissent plus le poids des stéréotypes, le poids de l'art. Il y a déjà une charge biologique déjà qu'on porte, hein, il ne faut pas se le mentir, sans compter la charge mentale, c'est les femmes qui le subissent. Et pour moi, il y a un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est l'éducation.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on apprend à nos petites filles? De manière totalement inconsciente, de manière subliminale même, et de manière consciente. Il y a trop l'éducation de nos petites filles, trop l'éducation des femmes est trop faite de manière subliminale, de manière inconsciente, de manière à répéter les mêmes schémas sans se poser la question. Quand tu es une petite fille, tu dois faire. Si je prends un exemple très simple, une petite fille, quand elle va vouloir pisser en route, quand elle va vouloir pisser, on va tout de suite la cacher quelque part pour pisser. Tandis que le petit garçon, non, il va exhiber sa petite quéquette là et pisser partout tranquille. Il va même être fier que non, il arrose. Il va même faire le concours de jet d'urine. Inconsciemment, qu'est-ce qu'on apprend à nos petites filles? Ou alors une petite fille, on va être très dur avec elle, par exemple, quand on va trouver une tache sur son slip, que ce soit voilà, tache de sel et tout. Tandis qu'un petit garçon, ça va passer. Ou alors une petite fille, on va faire trop attention à elle, à lui interdire certaines choses de faire. Non, tu ne dois pas jouer avec tel type de jeu. Tu ne dois pas trop jouer dans la boue. Tu ne dois pas jouer avec les garçons. Tu ne dois pas être trop sale. Tandis que le petit garçon, on va le laisser plus il est sale. Tandis que vraiment, les enfants garçons, là, ils bougent beaucoup. Hein. Vous voyez, de manière totalement subliminale, depuis que nos enfants sont petits, à certains sexes, on permet des choses et à d'autres, on ne permet pas. La question, c'est qui fait ça? C'est nous, les parents. Ce sont les parents qui font ça. Parfois, eux, ils le font aussi parce que je pense l'excuse est tout trouvée qu'ils ont toujours, c'est nous-mêmes, on nous a fait comme ça. Tu fouettes ton enfant, moi-même, on m'a fouetté comme ça. Tu fais ceci, c'est ça qui a fait ceci, c'est que nous sommes. Oui, ok, mais est-ce que ce que vous êtes à l'échelle individuelle, est-ce que collectivement, ça marche? Parce qu'on est aussi dans une société où il y a énormément de jurisprudence, c'est-à-dire parce qu'on a fait telle chose, ça marche ou ça n'a pas marché, ça se généralise rapidement. Donc, pour moi, ça, c'est le dénominateur commun. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent frustrées dans leur intimité sexuelle, comme tu dis, qui n'arrivent pas à parler. Et on leur demande à 40 ans ou à 20 ans de savoir s'exprimer. Pour les petits, là, on parlait des femmes qui ne savent pas s'exprimer au lit, qui ne savent pas demander ce qu'elles ont besoin, qui ne savent pas se connaître. Mais je dis toujours, là, on essaie de régler des problèmes qui ont été causés 10 ans, 20 ans plus tôt. Comment vous voulez qu'une femme au lit puisse demander à un homme ce qu'elle veut, alors qu'on ne lui a jamais appris à demander même déjà? Parce que pour moi, en fait, je parle toujours en termes de compétences. Quand on a la compétence, quand on a la capacité à pouvoir s'exprimer, même au lieu on va s'exprimer, quand on a la capacité à savoir ce qui est bon pour soi dans la vie, je sais, voilà, je sais choisir quels vêtements je veux porter, quelle nourriture je veux manger, quel habit, que vraiment je sais faire des choix pour moi qui me correspondent et que j'assume. Même au lit, je vais avoir cette capacité-là. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais être dans les meilleures dispositions pour demander parce qu'on m'a appris à le faire. Or, quand on éduque nos enfants, quand on éduque surtout nos petites filles, je prends le temps, je m'arrête vraiment sur les petites filles, et qu'on ne demande jamais à une petite fille, tu as envie de
Que tu
manger quoi?
veux,
On
ouais.
t'impose seulement, fais comme ça. On ne te demande jamais ton avis sur ce qui te concerne toi. Même, je sais pas, même des choses banales, quoi, tu vois. Par exemple, je sais pas, il pleut, tu veux que l'enfant porte le pantalon, propose-lui de prendre le pantalon rouge ou le pantalon vert. Qu'elle choisisse, elle, ce qu'elle enregistre, c'est je peux choisir, on me demande mon avis. Toi, pour le parent, ça ne te coûte rien plus le tout, mais tu veux qu'elle porte un pantalon. Quand on ne fait pas ça, on s'attend à ce que. Ou alors, quand les petites filles elles-mêmes, elles voient dans leur maison, dans les maisons où elles ont été élevées, comment leur mère est toujours là, elle ne dit jamais. On ne demande pas. Elle enregistre aussi ce message, parce que c'est comme ça que ça marche, parce que l'enfant se construit
C'est
à
ça.
travers l'image qu'il a de ses parents. Comment est-ce qu'il voit les adultes autour de lui faire? Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on s'étonne que 10 ans plus tard, elle ne sait pas demander, elle ne sait pas oser. Ou alors à chaque fois qu'elle a osé, ben, on a tapé sur ses pieds, on a tapé sur ses mains. Ou alors à la maison, on privilégiait d'abord les garçons.
C'est
De manière
ça.
subliminale, c'est ce qu'on envoie à nos filles, que même au lit, c'est d'abord, tu dois d'abord faire plaisir à ton homme, à l'homme.
Vraiment puissant.
Ton plaisir, ça passe totalement en dernier, quoi, ça n'existe pas. Donc, c'est s'il est gentil, la preuve. Les hommes, même dans les couples, dans les maisons, qui sont, on va dire, ouverts, qui causent avec leurs femmes, qui prennent le temps de soutenir leurs femmes, on dit que waouh, ce sont des hommes exceptionnels. Donc, les filles enregistrent qu'avoir un homme qui est, comment on dit, qui est présent, qui est aidant, comment on dit, qui dialogue avec sa femme, qui soutient, ce sont des hommes exceptionnels. Alors que non, vous voyez, et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est ce qu'on vit dans notre sexualité. C'est d'ailleurs pour ça que quand les femmes arrivent à la quarantaine et un peu plus, elles sont extrêmement frustrées. Pourquoi est-ce qu'elles sont extrêmement frustrées? Parce qu'elles se rendent bien compte que le schéma dans lequel elles ont été élevées, ce qu'elles ont mis en place jusqu'à maintenant, ça ne marche plus.
Pas, ouais.
Ça ne marche plus parce que la saison a totalement changé. Et tout
Oui.
ça, le message de Mars, c'est pour ça qu'elles deviennent plus frustrées, plus aigries, et donc elles vont plus s'engueuler, elles vont plus être, on va dire, rebelles et tout ça, parce que ben, elles sentent bien, en fait, que dans leur corps, ça ne marche plus par rapport à ce qu'elles ont à gérer comme situation avec les enfants, le couple, la belle famille, le travail et tout. Ça ne tient plus, en fait. Elles craquent. Soit elles vont faire une dépression, voilà, et on va les mettre comme ça, elles vont se faire un cancer, elles vont se faire toutes les maladies bizarres et chroniques que tu ne sais pas d'où ça vient, mais en fait, c'est parce qu'elle a trop accumulé et qu'elle est saturée.
Ah,
Soit elle va dire, et quand
c'est pas exact.
on va dire que, oh, les femmes sont montées, oh, les femmes sont descendues, oh, les femmes à ceci, en fait, c'est parce qu'elles ont trop accumulé et leur corps n'est plus capable de supporter. La poubelle est pleine, donc ça ne peut que déborder. Voilà ce qui se passe profondément dans le paradigme des femmes et qui font que, à partir d'un certain âge, même dans leur intimité sexuelle, ça ne marche pas. Ce sont des problèmes bien profonds qu'il faut prendre le temps de résoudre à la base. Il faut qu'on prenne le temps d'éduquer nos enfants différemment. On prenne le temps de voir tout ce qui n'a pas marché pour nous et que, en conscience, on décide d'apprendre à faire différemment. En tant que parents pour nous-mêmes, en tant que femmes pour notre pays, mais surtout pour la génération qui vient.
Oh, Linda, Linda présidente, Linda présidente, Linda présidente, ah,
Oui, j'imagine, Simone, que tu voudrais réagir. Vas-y.
par rapport à ça, je peux que être d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et putain, t'es petite, on te dit oui, ton frère il va pas dans la cuisine parce que les garçons sont interdits dans la cuisine. T'as pas le droit de t'exprimer, je veux mettre un pantalon. Non, les filles, ça met des jupes. L'exemple du mari, moi j'ai eu la chance d'avoir été mariée avec un homme hyper. Il faisait à manger, il faisait le ménage, il s'occupait autant des enfants. Donc cette histoire de charge mentale, mais vraiment, moi je l'ai pas trop eue parce que c'était égal-égal. Et le jour où j'ai décidé de me séparer, mais oh, toi, ton mari, tu as de la chance. C'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, qu'en gros, waouh! Non, non, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est ce qui devrait être la norme. C'est-à-dire qu'un homme, il doit faire le ménage parce qu'il est aussi chez lui. Il doit faire à manger parce que c'est bon de manger. Il doit s'occuper des enfants parce qu'il a mis au monde des petits êtres humains et que une fille, mine de rien, la figure paternelle, c'est encore plus important pour une fille que, parce qu'on sait qu'il y a la maman et tout, mais le père qu'on a, c'est le futur mec qu'on va chercher. Linda, je pense que tu es d'accord avec, et c'est en psychologie, dans tous les trucs, on reproduit les schémas, on peut toujours avoir ce qu'on, par rapport à notre père et tout, donc il faut changer plein de choses. Et tout à l'heure, elle parlait de cette charge mentale. En plus, on ne nous apprend pas à nous exprimer, donc petite, et ensuite en tant que femme. Et quand la cocotte explose et qu'on dit les choses avec force, on dit que, ouah, comme tu dis, les femmes sont montées, les femmes sont descendues. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dire les choses. Il faut juste que ça sorte. Parce que ce que tu ne dis pas s'imprime dans ton corps. C'est comme ça que thyroïde, c'est comme ça que diabète, c'est comme ça que cancer. Ce sont des maladies psychosomatiques. Et en fait, si tu n'exprimes pas ça, pareil, on n'est pas conditionné à parler, en fait. Donc, si tu n'es pas dans la vie de tous les jours conditionné à parler, comment tu veux parler dans ton lit?
C'est
Comment tu veux parler
exactement
dans ton lit?
ça. C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, ce qu'elle a dit au début d'entretien, ça a son sens. La sexualité est une construction. Ça n'a pas commencé avec ton premier rapport sexuel. Ça a commencé avec ton conditionnement en bas âge. Donc, effectivement, on ne peut pas être surpris d'avoir une femme à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans, à 30 ans, qui s'y perd complètement parce que, pour finir, ce qu'elle pense n'a jamais eu d'importance. Ce qu'elle veut n'a jamais eu d'importance. Elle a toujours été éduquée dans l'optique du service, du sacrifice, du don de soi. Et ça fait que, voilà. Hein.
Il y a un terme qui est bien. On dit, il y avait un truc à un moment, c'était une copine féministe qui avait dit ça parce qu'elle entendait tout ça. Une vraie femme africaine fait ça. Et
Oui.
ce terme, il m'a toujours heurtée parce que accolée à ça, c'est jamais été une femme africaine, elle est fière, elle est ceci. Non, une femme africaine, Une femme africaine, quand son mari la trompe, elle doit se taire. Une femme africaine. Et c'était toujours accolé, comme tu l'as dit, Armelle et Linda, le sacrifice. C'est-à-dire que tu te fais passer, mais vraiment en tout dernier, et tu souffres dans ta chair. Et à côté de ça, on attend de toi qu'à 50 ans, putain, t'as pas envie, ben, je vais prendre une petite pilule pour me laisser faire. Non, si t'as pas envie de faire du sexe, tu ne fais pas de sexe. Parce
Et
que tout à l'heure, l'idée, c'est entretenir la flamme. Mais l'homme aussi doit entretenir la flamme.
ah oui, c'est commun, c'est commun, c'est commun.
C'est un truc commun. C'est-à-dire que ta femme, en plus, comme disait Linda tout à l'heure, nous, on a un truc hormonal. On a nos cycles, on a nos règles. Et on a trop mis ça comme si c'était la honte ou quoi que ce soit. Les femmes, on vit au cycle, par rapport à notre cycle menstruel. Et il faut respecter ça parce que c'est une force. On donne quand même la vie, tu vois. Et c'est aussi une force, c'est-à-dire que le moment où tu as les règles ou quoi que ce soit, on rentre. Tout à l'heure, elle parlait des saisons. On a vraiment les mêmes métaphores et tout, tu vois. Tu as le moment les règles, c'est quand tu as l'hiver qui arrive. Donc, tu te refermes sur toi, tu vois, et tu as besoin d'être avec toi. Et il faut respecter le cycle d'une femme. Après, tu as la saison où tu es la jeune fille, un peu le printemps, tu vois, et tout. Après, tu as l'été avec le moment où on ovule, bah justement. C'est à ce moment-là où on ovule, où on a envie de sexe, mais vraiment, on est vraiment chaude bouillante. Et bien déjà, apprenez déjà à comprendre votre cycle et même votre sexualité, ben, elle sera au plus optimale, en fait, tu vois. Et ça, ce n'est pas l'affaire de la femme, c'est l'affaire de l'homme et de la femme. Tu veux avoir du sexe avec une femme, comme je dis souvent, la sexualité, ce n'est pas l'acte, c'est l'éducation sexuelle qui va autour. Et on est quand même censé être entre adultes. Donc, il faut être conscient. Et comme elle disait tout à l'heure, ne pas se dire que bon, ok, la femme, moi, je sexe avec ma femme et puis je lui laisse la charge de la contraception parce que c'est ce qui se passe, ne nous mentons pas. C'est-à-dire que, au niveau de la contraception, on met ça à la charge de la femme, tu vois. Donc, quand tu as cette charge de devoir calculer, de ouais, oh, putain, on a tous eu ce truc où tu as un retard de règles, tu es dans un truc où tu n'es pas bien ou quoi que ce soit. Et même quand tu vas parler à ton homme, ben, tu sais, bon, ben, en gros, démerde-toi un peu, tu vois, et t'es là, t'es avec tes peurs, t'es avec tes soucis, donc tu subis ta maternité, tu subis ta sexualité, donc. Alors que maintenant, il y a des trucs, il y a des contraceptions qu'on peut mettre, que les hommes peuvent aussi assumer, tu vois, et on n'en entend pas parler, pourtant, c'est des trucs qui existent, donc j'ai envie de dire, tu veux que ta femme ait envie de sexe assez souvent, ben, enlève-lui cette charge mentale, enlève-lui cette charge au niveau de la contraception, et tu verras que une femme qui est allégée, qui est bien, qui est ceci, oh oui, bien sûr, elle a envie de son homme assez souvent. Même si après, elle a la même chose, hein. Moi, ma prof de massage tantrique, elle a 62 ans. Écoutez, elle a plus d'énergie que des nanas de 20 ans, quoi. Sincèrement. Oh putain, quand elle me raconte ses week-ends, je suis là. Quand même, et elle me dit, bah, je l'ai vu, on est samedi, je l'ai vu jeudi. Elle me dit, et moi je venais d'avoir mes règles. Elle dit, oh, moi je suis trop contente, j'ai plus mes règles maintenant. Donc en gros, c'est que l'amusement. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la charge mentale. C'est-à-dire qu'elle s'occupe que d'elle. Elle est dédiée qu'à son propre plaisir. Donc même dans notre société, ce genre de mentalité, on dirait que oh, elle est égoïste. Mais comprenez-vous les hommes et vous les femmes que si une femme elle est égoïste et qu'elle pense à elle, elle va vous rendre très heureux parce que c'est inné en nous de prendre soin de l'autre. Mais pour prendre soin de l'autre,
Exactement.
soin de nous, tu enlèves toute la charge mentale. Tu vas voir ta nana, elle va nioxer tous les jours. Toi-même, tu vas être fatiguée.
Cher ami auditeur, je voudrais rappeler qu'on est entre Camerounais. Donc, si vous entendez des verbes bizarres, genre nioxé, que ça fait une éternité que je n'ai pas entendu, ne vous inquiétez pas. Nioxé, ça veut dire faire l'amour, baiser, s'accoupler, forniquer. Bref, c'est le rapport
Seigneur,
sexuel.
c'est
C'est
Seigneur.
nioxé.
Mais Linda, je pense que tu me rejoins sur ça, franchement.
Non, mais totalement. C'est vrai que là, j'ai pris comme on parle des femmes, je me suis vraiment attardée sur le cas particulier des femmes. Mais si je vais revenir aussi, ben, c'est la même chose pour les hommes. L'éducation qu'on donne à à nos garçons ou les hommes qui sont aujourd'hui, ben, ils portent un peu quand même, je veux dire, aussi une carapace. Parce que c'est très difficile pour eux. Tu vois, depuis qu'ils sont petits, on ne les apprend pas à exprimer leurs émotions. Dès que tu pleures, on dit tu pleures comme une femme.
Ça.
Ou alors, voilà, quand tu as des problèmes, tu dois appuyer sur toi. Après, je suis d'accord que les hommes viennent de femmes, viennent de mâles, les femmes viennent de. Donc, on a déjà un fonctionnement différent au niveau de notre biologie. Par exemple, les hommes, ils sont tout le temps en train de produire des spermatozoïdes, donc ils sont tout le temps dans la chasse. Tandis que les femmes, tu vois, elles prennent le temps de préparer les choses, de faire le truc au bon moment, ainsi de suite. Donc, on est différents. Et c'est important aussi, même dans l'éducation que les qu'on donne à nos enfants, de tenir compte de ça même chez les hommes. Parce que c'est toujours les femmes qui éduquent les garçons, il faut le dire. C'est les hommes qui éduquent les garçons. Donc, eux aussi doivent commencer à donner des messages différents à leurs garçons pour que dans 20 ans, 30 ans plus tard, ils soient des maris, ils soient des hommes à la hauteur de ce que notre siècle a besoin, à la hauteur de ce que les femmes ont besoin. Parce que, tu vois, dans beaucoup de choses qu'on parle, on parle toujours des femmes, il faut changer les femmes doivent faire ceci. Mais pour moi, en fait, s'engager juste dans le travail pour un sexe, c'est créer à terme une guerre des sexes qui ne
Exactement.
nous aidera pas. Qui ne
C'est
nous aidera pas. Tu
ensemble.
vois? Voilà, c'est ensemble que ça doit améliorer. Et pourquoi est-ce que ça doit améliorer ensemble? Il est aussi important qu'on éduque nos garçons différemment parce que ce qu'ils font, le fait qu'ils soient tout le temps en train de demander, d'exiger, de prendre, c'est aussi comme ça qu'on les a éduqués. Je voulais juste terminer sur ce point-là. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a éduqué les garçons et qu'il est donc important de revoir à la base comment est-ce qu'on éduque nos enfants, comment est-ce qu'on leur transmet des valeurs qui permettra à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on ait des hommes équilibrés, des femmes équilibrées qui travaillent en symbiose pour l'harmonie et la vie, comment on dit, de la famille, du couple, et ainsi de suite. Que ce ne soit pas la responsabilité d'une personne. Parce que si on fait ce travail de déconstruction, de stéréotypes, de schémas, de toutes ces choses qui sont lourdes et qui pèsent sur les femmes, et qu'on ne prend pas également de faire le même travail chez les hommes, à un moment, ça va être un truc à double vitesse et ça va clasher. Et on va rentrer dans une guerre qui parfois est en train de se passer parce que ben, les gens en fait marchent à deux vitesses et ça ne va pas. Et les hommes, naturellement, avec leur testostérone qui leur donne les muscles, qui font que leur ego est un peu trop monté, on va leur dire qu'on leur laisse ça comme ça ne va pas marcher. Donc, il est vraiment important de refaire ce travail ensemble à la base. Et même s'il y a des changements à opérer à l'intérieur de la femme, il faut également que ces changements-là suivent. Mais je dis toujours, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Il faut toujours que ça démarre quelque part. Mais il faudrait, même si ça démarre quelque part, pour que ça tienne dans le long terme et pour qu'en changeant, on ne crée pas plus de problèmes, parce que c'est aussi ça parfois la difficulté qui fait que personne dit que non, maman, mieux je m'engage parce que durant la mieux je souffre dans mon côté. C'est que ces changements-là, ça se fasse de la manière la plus naturelle, la plus simple possible, sans ajouter encore plus de blessures qui existent déjà.
Alors, soyons égoïstes, hein? Nous sommes maman, nous allons éduquer nos garçons, nos filles, mais revenons aux femmes que nous sommes aujourd'hui, parce que là, on a envie de réparer, hein, des années de frustration, des années de déception, des années de se chercher, des années, des années, des années. Aujourd'hui, nous sommes, j'ai presque envie de dire, au crépuscule de nos vies, hein, comme quelqu'un disait, nous sommes plus proches de la tombe que du berceau. Et ce que je retiens en fait pour finir, si on devait garder quelque chose, c'est que il faut qu'on soit bienveillante vis-à-vis de notre propre sexualité. On est plus jeune, donc forcément, on n'a plus la même énergie. Oui, il arrive à un moment où on est au top de notre épanouissement, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut, mais rien n'est plat. Ce n'est pas un électrocardiogramme qui indique la mort. Il y a des ups, il y a des downs, et il faut qu'on apprenne à faire avec. On a une sexualité de 20 ans à 20 ans, pareil à 30, pareil à 40, pareil à 50. Et ainsi de suite. Et il faut, tout à l'heure, Linda parlait de changement, il faut qu'on intègre ces changements-là avec bienveillance pour que ça se passe bien. Peut-être que c'est dû à un traumatisme, peut-être que c'est dû aux hormones, peut-être que c'est dû à mon environnement, peut-être que c'est le boulot, peut-être, 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 peut-être. Mais il faut qu'on réussisse à faire la paix avec ça tout en étant en alignement avec ce qu'on attend de nous-mêmes. Donc, est-ce que si on dit ça comme ça, vous trouvez que c'est correct, Simone?
Oui, ce que tu as dit, oui, c'est correct. Mais il y a comme elle disait tout à l'heure, Linda, il y a des choses qu'on sait et on a tellement la flemme de changer ces choses-là qu'on reste. Là, ce que tu as dit, oui, dans les paroles, c'est magnifique. Maintenant, c'est dans les actes. Tu vois, c'est vraiment dans les actes qu'il faut que
Ouais.
ça change. Et comme tu as dit, il n'y a rien qui est comme ça. Il faut accepter, deux fois, il y a des ups, il y a des downs, il y a des ups, il y a des downs. Le premier des trucs, c'est d'être, comme tu as dit, bienveillance. Bienveillance parce qu'aujourd'hui, je me suis fixé des trucs, voilà, tu sais, allez, ma nouvelle journée, je prends en compte, voilà, ma sexualité, je pense à moi. Putain, premier jour, ah oh, mince, il oh, y a mon fils, oh, il a une urgence à l'école, bon, le papa, il n'a pas géré, voilà, hop, je remets dedans. C'est pas se taper en disant, oh, voilà, dit que j'allais faire ça et je l'ai pas fait. Non, c'est que la vie, c'est comme ça. Et donc, faut juste apprendre à surfer. C'est ça que je pense que Linda et moi veut vous dire. Juste apprendre à surfer, tu vois, dessus. C'est tout. On vous demande pas d'être performante parce que ça sert à rien, la performance. Juste apprenez à surfer. Il y a des moments où ça va aller, il y a des moments où ça va pas aller. Juste soyez bienveillante. Essayez de vous aimer. C'est pas quelque chose qu'on nous a appris. C'est que ça reste quand même quelque chose comme ça, mais apprenez à vous aimer suffisamment pour vous dire que voilà, aujourd'hui, j'ai pas réussi à ça. Oh, demain, bah, je sais pas, monsieur, il avait envie, ben moi, j'avais pas envie parce que voilà, je me suis écoutée. Ça, c'est une petite victoire. Et célébrez vos victoires. Moi, c'est ça. C'est la somme des petites victoires que vous allez avoir, ben, c'est des choses qui vont changer. Vous voyez pas là maintenant, mais ça va changer votre futur. Et c'est juste ça parce qu'on est humain. Et le changement, c'est des petites, c'est une pierre, une pierre, une pierre, une pierre. Et puis la vie, c'est tu chutes, tu te relèves, tu chutes, tu te relèves. Et c'est ça. Et même quand tu chutes, prendre conscience que voilà, bah, par exemple, je donnais l'exemple de l'urgence du fils ou quoi, bon, bah voilà. Juste prendre conscience que, voilà, noter, ah, oh, ça m'a mis en colère parce que j'aurais bien voulu que ce soit monsieur qui s'en occupe. Juste le noter dans ta tête ou à l'écrit et voir qu'est-ce que ça fait surgir en toi et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir. Et prendre ce truc-là et essayer que la prochaine fois, s'il se passe la même chose, essayer de gérer autrement parce que tu veux plus toucher cette émotion. Et ainsi, tu sais, vraiment, la vie, c'est un apprentissage perpétuel jusqu'à notre tombeau. C'est ça, c'est un apprentissage. On n'est jamais maître. Et même quand tu crois que tu es maître, tu es toujours élève parce que même le petit enfant qui vient de naître, il va t'apprendre quelque chose. Moi, c'est ça que je vois. Et la sexualité, c'est pareil. Tout à l'heure, on disait oui, c'est ça faisait un peu girl power et tout, mais dans la réalité, c'est vraiment le message. Moi, final, ça sera voilà, soyez bienveillante, célébrez vos victoires, savoir dire non. Le consentement, vu qu'on nous l'a pas appris, on n'arrête pas de le dire. C'est la victoire au quotidien, c'est savoir t'écouter, c'est savoir dire non, c'est savoir dire oui, c'est savoir à un moment oser. Bah là, chérie, bah par exemple, je sais pas, votre chérie, il n'a pas du tout envie de vous, mais là, moi, mon désir, c'est que je veux là, tout de suite là. Et ben, allez-y, osez, en fait, osez être vous-même, osez vous célébrer, osez vos petites victoires. Moi, c'est ça que je vois, et quel que soit l'âge. Et il y a un truc qui est dit aussi que à la 40, on est quand même au firmament de sa sexualité, de sa pleine puissance sexuelle. Donc les filles, on est là, on est au top of the top en vrai. Tu vois? Et c'est justement à ces moments-là que c'est les petits jeunes, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est les petits jeunes qui sont derrière nous parce que, oh, ils voient des femmes qui se connaissent mieux, qui financièrement sont plus autonomes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que bah, tu as les Brigitte Macron, tu as les ceci parce que...
Tu irradies de mille feux.
Voilà, en tout cas, c'est une
Merci.
réalité, on shine, on glow, voilà. Après, c'est savoir, on arrive à des carrefours de nos vies. Je pense que c'est pour ça que les femmes de 40 ans pètent un plomb. Parce qu'à la quarantaine, à la cinquantaine, c'est un carrefour de ta vie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Armelle, on est plus proche de la tombe. Est-ce que tu veux pour les 20 ans, 30 ans à venir, est-ce que tu veux continuer sur ce même schéma? Ben non, en général, si t'es pas heureuse, non. Et c'est ça qui te fait te révolter et être pas bien. Et il faut écouter la colère qui gronde en toi, tu vois, et opérer des changements. Alors, est-ce que ça va être des changements? Je quitte tout. Il y a des femmes, elles quittent tout, elles s'en vont, elles changent et machin. C'est ton choix et il faut être cool avec ces nanas-là. Puis t'as celles qui vont, voilà, je reste avec mon mari, je reste avec mes enfants, nanana, nanana. Et les changements, dans ce cas-là, ça sera petit à petit, petit à petit, petit à petit. Déjà, se remettre au premier plan, c'est la victoire absolue. La victoire absolue, pour moi. Donc voilà, c'est mon mot. Moi,
Linda?
pour ma part, je pense que à cet âge, il y a des changements à opérer en profondeur. Puis comme Simone l'a dit, apprendre à se remettre au premier plan de sa vie. Et le fait de se remettre au premier plan de sa vie, pour moi, ça n'a nullement rien d'égoïste. Parce qu'on a trop souvent, comment on dit, qu'on a trop souvent entendu dire. Donc, du coup, moi, je n'emploie même pas le terme être égoïste. Non, je parle de se remettre au premier plan. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, et qui lisent la Bible, il y a un passage qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la mesure de l'amour que tu dois avoir pour l'autre, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton travail, la mesure de cet amour, c'est quoi? C'est toi. Donc, le fait de s'aimer, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, de plus normal pour pouvoir aimer les autres. Si tu aimes les autres plus que toi, tu es en train de faire quelque chose de pas normal. Et c'est parce qu'on s'aime, parce qu'on sait se donner de l'amour, qu'on peut en donner. Maintenant, la question, c'est de comment? Parce qu'on va donner beaucoup d'injonctions aux femmes. Il faut ci, il faut ça, arrêter de faire ça. Maintenant, c'est comment faire au quotidien? Les actes valent mieux que les actions. Comme Simone a dit, poser des petits actes qu'on va célébrer. Mais quels sont ces petits actes-là qu'on va poser? Par exemple, se donner de l'amour. Comment est-ce que, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire pour manifester cet amour pour nous-mêmes, il suffit juste de regarder, en fait, ce qu'on fait pour les autres. Par exemple, pour mon mari, je prends le temps de lui préparer ses bons petits plats. Mais je pourrais faire de même pour moi. Me préparer un bon petit plat en disant, ben, c'est pour moi. Ou alors, comment est-ce que je peux faire pour manifester que voilà, que j'aime mes enfants? Je vais par exemple les amener, je sais pas, je vais les amener faire une sortie à la piscine après-midi, ils seront tout contents. Mais moi également, je peux me l'accorder. Et c'est juste en fait me montrer de l'amour. Et ce sont justement la somme de ces toutes petites choses qu'on va pouvoir mettre en place dans notre quotidien qui vont permettre de faire grandir naturellement notre amour pour nous. En se disant bien que le travail qu'on est en train de faire sur nous, ce n'est pas un travail uniquement pour nous, c'est également un travail sur la prochaine génération. Parce qu'en faisant ce travail pour nous, on pourra changer, inculquer des choses différentes à nos filles, à nos petites-filles et à nos enfants. Inculquer les choses de manière différente, pas en étant dans l'amertume. Parce que beaucoup de femmes, justement, quand elles sont à cette période de leur vie où elles explosent, elles sont dans trop d'amertume et trop d'aigreur. Il faut que l'on dise, les femmes sont trop aigries. Je comprends pourquoi est-ce qu'elles sont aigries. Mais le fait qu'elles déversent tout le temps leur colère, leur aigreur, ça ne change, ça n'aide personne. Au contraire, l'aigreur, la colère ne fait qu'entraîner de l'aigreur et de la colère. Pour changer cela, il faut réintroduire dans notre quotidien de l'amour pour soi. Qui va permettre de donner de l'amour aux autres et qui va permettre que l'amour traverse notre génération pour aller aux générations suivantes. Et c'est comme ça qu'on pourra naturellement éduquer différemment nos petites filles, naturellement éduquer différemment nos petits garçons avec de l'amour pour soi. Pas les éduquer en disant non, moi j'ai souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre, tu dois faire comme ça, les autres. Non, on rentre dans l'aigreur, on rentre dans la bataille, dans la dualité, bataille homme-femme, et c'est une bataille que personne ne va gagner. Les hommes, certes, ils vont avoir leur testostérone, leur le pouvoir, le ceci, toi. Mais de manière insidieuse, les femmes, elles ont également d'autres pouvoirs qui est beaucoup plus dans le calme, qui est beaucoup plus dans la douceur. Si quelqu'un pense que l'eau n'est pas une force, essaye de laisser tomber une goutte d'eau sur ta tête pendant 1 heure. Tu vas voir si tu vas commencer à devenir fou. Ou alors, essaye de laisser tomber une goutte d'eau pendant 100 ans sur une pierre, sur un rocher. Tu vas voir si ce rocher ne va pas se fracturer. Donc, on a des forces différentes. Et donc, c'est important de le comprendre, de l'accepter. Et de savoir surfer avec. Et à ce niveau, pour terminer, j'appelle vraiment aux femmes à faire ce travail sur elles-mêmes. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça le job. C'est ce travail que tes parents n'ont pas pu faire, que ton enfance n'a pas pu faire, que la vie n'a pas pu le faire. À un moment, tu es adulte et tu ne pourras pas, et on ne pourra pas indéfiniment accuser nos parents, accuser la société, accuser nos maris, accuser ceci.
C'est un fait. Maintenant, si on estime qu'on est devenu des femmes adultes, parce qu'il faut se dire, beaucoup de femmes se sentent continuer à avoir cette immaturité émotionnelle qui font qu'elles ne sont pas comprises par elles-mêmes et même autour d'elles. C'est pour ça que tous les combats qu'elles vont mener, on va dire, voilà, c'est les femmes aigries. Si elles ne font pas ce travail-là, ça ne va pas marcher, elles ne seront jamais des adultes. Or, être adulte veut dire qu'on a pris conscience de toutes ces choses qui ne marchent pas. On n'est pas responsable de notre éducation, des parents qu'on a reçus, de la famille dans laquelle on est sorti, de ceci, de cela. Mais à un moment où on prend conscience de ça, on est responsable de ce qu'on choisit d'en faire. Est-ce qu'on
Absolument.
va choisir de faire de tout cela quelque chose de beau, c'est-à-dire se reconstruire, redonner un nouveau sens à notre vie dans le calme et la sérénité consciente qu'on a choisie? Ou alors, est-ce qu'on va soit rejeter tout, mais c'est toujours un choix, ou alors adopter tout, mais on doit faire des choix. Et quel que soit le choix qu'on fait, faisons-le en conscience et assumons. Et en faisant ce choix, dites-vous bien qu'on est en train d'impacter la prochaine génération. Quel que soit le choix qu'on choisit, qu'on fait, que ce soit rester dans ces mêmes schémas qui nous emprisonnent dans notre sexualité, qui nous rendent malheureux, qui nous rendent aigris, qui nous rendent frustrés, ou alors faire le choix de se défaire de ça, ou alors faire le choix de choisir ce qui nous convient de garder et d'accepter d'apprendre de nouvelles choses en conscience, sinon de toute manière la vie nous apprend, ça va impacter la prochaine génération. C'est aussi pour ça que dans mon travail de sexologue, je travaille beaucoup sur la formation, sur l'éducation des parents. D'ailleurs, on a même lancé une école des parents pour justement permettre de prendre conscience de toutes ces dynamiques-là que les parents vivent et qui vont influencer leurs enfants. L'école va permettre à certains de guérir de tous ces maux, mais aussi d'apprendre comment est-ce qu'on peut faire différemment pour être plus heureux dans 10 ans, pour que nos femmes soient plus épanouies dans 20 ans, pour que nos hommes soit plus épanoui voilà, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est vraiment ce travail en profondeur qu'on a besoin de faire pour les femmes d'aujourd'hui, mais aussi pour les femmes de demain et pour les familles de demain.
Donnez-moi des amen. Je crois qu'on va ouvrir une autre église. Hein. Linda est le pasteur. Parce que... Parce que vraiment, vraiment...
L'église n'est pas des femmes bien baisées.
L'église des femmes épanouies. L'église
Ah,
des femmes épanouies. Ah. Merci les filles pour cet échange. Nous aurons à rediscuter encore parce que cet échange m'a donné envie d'explorer d'autres domaines de la féminité, de la sensualité, de la féminité, quoi. Et je trouve dommage, je trouverais dommage qu'on s'arrête simplement là, juste là, alors que il y a tant de choses à dire, il y a tant de choses à changer. Merci énormément, merci, merci et à très bientôt.
bisous. Bye bye.